Audiolib présente Le bleu de la nuit de John Didion, traduit de l'anglais par Pierre de Marty, lu par Isabelle Carré. Ce livre est pour Quintana. Chapitre 1. Sous certaines latitudes, pendant un certain laps de temps, à l'approche et au lendemain du solstice d'été, quelques semaines en tout, les crépuscules rallongent et bleuissent. Cette période de nuit bleue n'existe pas en Californie subtropicale, où j'ai passé la plus grande partie de l'époque dont je vais parler ici, et où les jours finissent vite, engloutis par le rougeoiement du soleil couchant. Mais elle existe à New York, où je vis aujourd'hui. On en remarque les prémices quand le mois d'avril touche à sa fin et que commence le mois de mai. Un changement de saison, pas vraiment un redoux. Pas du tout un redoux en vérité. Mais soudain, l'été paraît proche. Une possibilité, voire une promesse. On passe devant une vitrine, on marche vers Central Park, on se retrouve baigné d'une lumière bleue. C'est la matière même de la lumière qui paraît bleue. Et pendant une heure environ, ce bleu s'épaissit, s'intensifie, alors même qu'il s'assombrit puis s'estompe, se rapprochant pour finir du bleu des vitraux à Chartres par beau temps, ou du bleu des rayonnements de Tcherenkov émis par les barres de combustible dans les bassins des réacteurs nucléaires. C'est le moment de la journée que les Français appelaient autrefois « l'heure bleue ». Pour les Anglais, c'était « the gloaming ». Le mot lui-même « gloaming » résonne et se réverbère en une myriade d'échos. « Gloaming », « glimmer », « glitter », « glisten », « glamour ». Autant de déclinaisons de la lumière dont les consonances glissantes font surgir des images de maisons aux volets clos, de jardins enténébrés, de rivières frangées de verdure dont les méandres se faufilent parmi les ombres. Quand vient la saison des nuits bleues, on a l'impression que les journées n'en finissent jamais. Et à mesure que la saison des nuits bleues se rapproche de son terme, inexorable, inéluctable, on est saisi d'un frisson, d'une appréhension physique, maladive, lorsqu'on s'en avise pour la première fois. La lumière bleue s'en va. Déjà les jours raccourcissent. L'été n'est plus là. Ce livre s'appelle « Le bleu de la nuit ». Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à l'écrire, j'avais l'esprit de plus en plus souvent tourné vers la maladie, vers la fin des promesses, le déclin des jours, l'inévitable assombrissement, l'agonie de la clarté. Le bleu de la nuit, c'est le contraire de l'agonie de la clarté. Mais c'est aussi son avertissement. Chapitre 2. Le 26 juillet 2010. Elle fêterait aujourd'hui son anniversaire de mariage. Il y a 7 ans, jour pour jour, nous sortions de leur boîte les colliers de fleurs et déversions l'eau dans laquelle le fleuriste les avait livrés sur la pelouse devant la cathédrale Saint John the Divine sur Amsterdam Avenue. Le pan blanc faisait la roue. Les orgues résonnaient. L'épaisse natte qui lui tombait dans le dos était piquetée de fleurs de stéphanotis. Elle s'était recouvert la tête d'un voile de tulle et les stéphanotis s'étaient décrochés. On apercevait, à travers le tissu, la fleur de frangipanier qu'elle s'était fait tatouer juste sous l'épaule. « Allons-y » avait-elle murmuré. Les petites filles en robe diaphane, guirlandes de fleurs autour du cou, avaient remonté la travée en sautillant et l'avaient escortée jusqu'à l'hôtel. Une fois tous les mots prononcés, les petites filles avaient franchi avec elles les portes de la cathédrale et, passant devant les pans, les deux pans d'un bleu-vert scintillant et l'unique pan blanc, l'avaient suivi jusqu'au presbytère. Il y avait des sandwichs au concombre et au cresson, un gâteau couleur pêche de chez Paillard, du champagne rosé, tout cela selon son choix. Un choix sentimental, des choses dont elle se souvenait. Je m'en souvenais moi aussi. Lorsqu'elle avait dit qu'elle voulait des sandwichs au concombre et au cresson à son mariage, je l'avais revue, disposant des assiettes de sandwichs au concombre et au cresson sur les tables que nous avions installées autour de la piscine pour le déjeuner, le jour de ses 16 ans. Lorsqu'elle avait dit qu'elle voulait des colliers de fleurs à son mariage plutôt que des bouquets, je l'avais revue à 3 ou 4 ou 5 ans, descendre d'un avion sur la piste de Bradley Field à Hartford, arborant la guirlande qu'on lui avait passée autour du cou la veille au soir à son départ d'Honolulu. Il faisait -15 ce matin-là dans le Connecticut, et elle ne portait